parole du jour avec le Père Willem.
Les béatitudes, chemin d'humanité. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Cette deuxième béatitude s'adresse à ceux qui sont affligés, à ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Le paradoxe ici est plus évident que jamais. Ce sont ceux qui subissent, disons, l'affliction, qui sont déclarés heureux. Vraiment, de ce cas, le message des béatitudes heurte avec force notre sagesse humaine et notre rationalité. Il faut aussi souligner que cette béatitude s'ouvre sur un horizon universel. Oui, horizon universel, celui de l'humanité tout entière, car en tout temps et sur chaque terre, il y a eu, il y a et il y aura des hommes et des femmes, des enfants qui pleurent. Une telle ampleur d'horizon, précisément, effraie et interroge les commentateurs qui remarquent que cette parole de Jésus ne contient pas de portée religieuse, spirituelle, laquelle n'est donnée que par le contexte plus général des béatitudes. Mais justement, il est important que ces mots de Jésus, à propos de ceux qui pleurent, puissent être adressés à toute personne, qu'elle soit disciple de Jésus ou qu'elle ne le connaisse pas, qu'elle soit croyante ou non-croyante. Tout homme est interpellé par cette béatitude, car chacun d'entre nous connaît les pleurs dans sa vie, et d'ailleurs, la promesse de Dieu dans l'Ancien Testament déjà résonnait comme une promesse pour tous. Le Seigneur de l'univers fera disparaître la mort à jamais. Le Seigneur essuiera les pleurs sur tous les visages, nous dit le prophète Isaïe 25:8. Et cette promesse, de manière significative, est confirmée à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, « Dieu avec nous sera leur Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous, il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus de pleurs, de cris et de peines. Il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. » Voyez dans l'Apocalypse, chapitre 21, 2, 4. Ne voudrions ne pas voir, ne voudrions ne pas nous rendre compte, ne voudrions faire semblant de rien. Pourtant, des hommes et des femmes pleurent à cause de la mort, la leur et celle de leurs proches, à cause de la souffrance physique et psychique, à cause de la faim, de la violence, de la guerre, de l'oppression et aussi à cause de leurs péchés. Certains ont parfois même le rare don de pleurer de joie. Dans la Bible, les pleurs, les larmes sont un langage et une voix, disons une voix très présente. Surtout dans les psaumes, les larmes apparaissent comme le signe de la condition du juste qui souffre, qui n'a d'autre pain que les larmes le jour, la nuit, qui chaque nuit baigne sa couche en gémissant de ses larmes. Il arrose son lit et dans son affliction, celui qui pleure est vu et consolé par Dieu, par le Seigneur qui entend la voix des sanglots, qui ne reste pas sourd à ses pleurs et qui recueille les larmes de son outre. Dans son outre, oui, une outre largement ouverte pour se souvenir d'elle et accueillir de cette manière les gémissements de la personne. Mais la question reste, d'où viendra la béatitude pour ceux qui pleurent? Elle viendra d'un renversement de leur situation. Jésus nous a révélé que lors du jugement, ceux qui n'auront pas connu les pleurs et qui auront même ri sans jamais s'apercevoir des larmes de leur prochain, ceux-là pleureront. Voilà pourquoi chez Luc, la béatitude, heureux, vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Cette béatitude est suivie de cet avertissement. Malheur, vous qui riez maintenant, alors, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Cela dit, ce n'est pas seulement au jour du jugement que la béatitude réservée à ceux qui pleurent devra se réaliser, elle peut déjà s'avérer ici et maintenant, au jour de leur vie sur terre, ceux qui sont dans les larmes peuvent déjà connaître une consolation venant de l'Esprit Saint. Dans leur angoisse, il se tient à leur côté et leur donne force et joie de la part de Dieu. Même si la culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui tente de refouler et de cacher la souffrance, nous restons convaincus qu'elle est présente et qu'elle constitue la menace par excellence qui contredit notre vie heureuse. Elle est présente dans les corps, dans les esprits et dans les cœurs qui souffrent jusqu'à pleurer. Celui qui souffre va même jusqu'à faire l'expérience de son incapacité à exprimer pleinement et à communiquer sa souffrance qui apparaît véritablement à chacun d'entre nous comme le pire malheur. Face à elle, la question se lève spontanément. Quel sens y a-t-il à souffrir? Pourquoi souffrir ainsi? Pour exprimer l'universalité de cette expérience, voici un passage contenu dans un texte sacré de l'hindouisme. Le destin commun à tous les hommes, ce qui les unit tous, c'est la souffrance, la mort, l'ignorance. Voilà l'énigme par excellence de notre vie qui peut toutefois devenir un mystère dans la foi lorsque nous parvenons à donner à la douleur le nom de croix. Comme l'écrivait avec grande intelligence Giovanni Moelli, soulignons-le, la souffrance peut dans la foi devenir mystère. Il n'y a donc pas de réponse claire et évidente au pourquoi de la souffrance, à cette énigme, pas même à partir de la foi. Avant tout, il nous faut être sincères avec nous-mêmes. Dans la souffrance, nous sommes tentés de devenir plus attentifs à nous, plus égoïstes, plus repliés sur nous-mêmes, et nous sommes entraînés à chercher un salut sans les autres. Parfois, la souffrance abrutit, elle rend agressif et nous fait adopter des comportements qui, dans leur violence, nous étaient étrangers par le passé. La souffrance est une terrible épreuve à laquelle personne ne peut échapper tôt ou tard, à différentes intensités. L'expérience douloureuse du deuil provoque notre souffrance. Nous souffrons lorsque nous sommes séparés de notre mère au moment où est coupé le cordon ombilical. Nous souffrons lorsque nous devons quitter notre père, notre mère, notre terre, et plus généralement lorsque nous devons quitter quelque chose qui a représenté une valeur positive dans notre vie. Nous souffrons lorsque nous avons à renoncer aux rêves de bonheur, lorsque nous perdons la santé, lorsque nous perdons ceux que nous aimons. Nous souffrons lorsque nous vieillissons et que le temps et les forces nous échappent. Nous souffrons lorsque la mort s'approche et qu'il nous est demandé de renoncer à vivre. Toutes ces souffrances sont nécessaires. Sans elles, on ne chemine pas dans la vérité. Elles doivent être traversées et provoquent l'affliction, les pleurs et souvent le désarroi. Les souffrances en elles-mêmes ne sont ni utiles ni salvifiques. Elles ne représentent pas automatiquement une forme de purification ni un moyen pour devenir meilleur. Pourtant, en elles et à travers elles, se joue toujours le salut de notre vie, la recherche de sens, en particulier lorsque les souffrances, comme des vagues, s'abattent sur nous et semblent nous submerger. C'est à ce moment précis qu'il nous est demandé de nous engager à aimer et accepter d'être aimés. En un mot, nous sommes appelés à faire de la souffrance un chemin de communion. Voilà le défi, voilà le cheminement proposé à tout être humain, sans exception.